Jésus, Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie simplement que je sois ce canal ce matin pour toi, que, Seigneur, même les choses que j'ai préparées et que tu veux laisser de côté, Seigneur, je suis prête à les laisser de côté et à te laisser toute la place. Je me soumets à toi, Seigneur, pour ces temps qui sont là devant nous maintenant. Je te bénis, Père, parce que tu es le Dieu fidèle. Je te bénis pour ton Saint-Esprit qui nous conduit maintenant dans ce temps d'exhortation. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un intercesseur peut bien vous apporter? Beaucoup de choses. Merci David. En fait, j'avais sur mon cœur ce matin de vous parler de la prière, pas forcément de l'intercession proprement dite, bien qu'il y a des petits points comme ça, mais vraiment de vous parler de la prière. Et vous savez que la prière, mais c'est une des armes que Dieu nous a données. On trouve ça dans Éphésiens 6, à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et souvent, on s'arrête là. Mais le verset suivant, c'est « Priez en tout temps » par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Et c'est vrai, souvent, quand on pense aux armes du chrétien, on pense à toute la liste, on la descend, et puis la prière, ben, c'est un peu le parent pauvre, c'est un peu oublié, on ne rajoute jamais ce verset à la liste des armes. Pourtant, c'est une des armes les plus efficaces et les plus puissantes que Dieu nous ait données. Vous savez certainement qu'il y a plusieurs formes de prière. J'ai entendu quelqu'un un jour dire qu'elle en avait trouvé 17 en tout. C'est énorme. Moi, j'y suis pas encore, mais je fouille, je cherche. J'espère trouver au moins les 17. Et vous savez certainement que ce qu'on a fait déjà ce matin, eh bien, c'était une forme de prière. La louange et l'adoration, c'est une forme de prière. Dieu nous a donné des outils. Les hommes qui sont au milieu de nous ne me contrediront pas, et puis moi-même, je sais qu'il est plus facile d'enfoncer un clou avec un marteau qu'avec tout autre outil. Je m'y suis déjà essayée, hein, j'avais pas envie de descendre au garage, chercher le marteau et j'avais juste un tournevis sous ma chaussure. Bon, le clou a été planté de travers avec beaucoup de peine. J'aurais mieux fait de descendre et puis de chercher mon marteau. Et comme ça, Dieu nous a donné toute une palette d'outils. Et nous, souvent, on en utilise un, deux, trois. Et puis les autres, eh ben, ils restent là, enfermés dans leur caisse à outils, on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas les utiliser, et pourtant, ils sont là, ils sont à notre disposition, ils sont à notre portée. Vous avez déjà vu les couvreurs quand ils montent sur les toits, ou un charpentier quand il va faire sa charpente, il a une ceinture autour des reins, et dans sa ceinture, il a toutes sortes d'outils qu'il va utiliser selon les besoins qu'il va avoir. De la même manière, Dieu a mis une ceinture à nos reins avec toutes sortes d'outils dedans, toutes sortes de formes de prière ou d'intercession. À nous de les trouver, à nous de nous exercer, à nous de nous en servir à bon escient. Dieu s'attend à ce qu'on se serve de ces outils. Si tu donnes un jouet à ton enfant, tu t'attends, même s'il ne sait pas. Moi, je sais que la première fois qu'on donne des Legos ou quelque chose à imbriquer à un bébé, au départ, il ne sait pas trop. Il y va maladroitement. Et puis le papa, eh ben, il est là pour lui montrer, pour l'aider. Et tout d'un coup, pof, ça va tout seul. Et il y arrive, et il construit, et il construit. Et puis à un moment donné, dans la construction, il y a quelque chose qui va de travers et badaboum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va courir vers son papa ou vers sa maman. « Papa, maman, c'est cassé, viens m'aider. » Et qu'est-ce qu'il fait le papa? Mais il vient donner un coup de main. Mais c'est de la même manière que Dieu, quand on commence à s'exercer avec les outils qu'il nous a donnés, il va venir nous aider. Il ne va pas nous dire, tiens, voilà un marteau, un clou et une planche, débrouille-toi. Déjà, il va nous montrer comment tenir le clou pour pas qu'on se tape sur les doigts. Il va nous montrer, il va nous aider à nous servir de ce marteau. Et au début, le clou sera planté de travers, maladroitement, mais à force, eh ben, le clou va entrer dans la planche et on va pouvoir planter un clou de façon correcte. C'est vrai qu'on a déjà prié ce matin. Ce sont des prières chantées. Tous les psaumes étaient des prières. Et quand on voit tout ce qu'il y a dans les psaumes, il y a une telle palette de choses dans les psaumes. Il y a la reconnaissance, il y a l'adoration, la louange, il y a les plaintes, les gémissements, il y a la révolte, il y a la colère, il y a tout ça dans les psaumes. Relisez le livre des psaumes et vous verrez tout ce que vous allez y découvrir. De la même manière, dans la louange, dans l'adoration, je peux exprimer toutes ces choses. Et parfois, un instrument à lui seul suffit à exprimer ces choses. Ça nous est arrivé, tu t'en souviens certainement, David, d'un temps l'année dernière dans l'intercession où on savait qu'aucune parole qu'on pourrait dire, qu'aucun acte, que rien de ce qu'on pouvait faire n'allait faire bouger les choses tellement c'était ce que nous avions devant nous, c'était dur. C'était dur, on avait vraiment une forteresse à enfoncer. Il nous fallait un bélier pour enfoncer cette porte, pour pouvoir aller de l'avant et que le ciel se dégage. Et il n'y avait qu'une chose à faire. Et j'ai demandé à David de se mettre à la batterie. J'ai demandé aux autres intercesseurs qui étaient là de prendre des tambourins et de faire un raffut, de faire du bruit, mais tant qu'on pouvait. Et tout d'un coup, c'est comme si un troupeau d'éléphants s'était mis en marche, un troupeau d'éléphants qui commence à charger. Et on a senti cette force, cette puissance nous envahir, nous traverser, et rien que parce qu'on s'est servi d'instruments de musique comme instrument de guerre, eh ben, la chose, elle s'est dégagée, et on savait au moment où on terminait qu'il n'y avait plus rien à rajouter. Pas un mot, rien, la bataille était gagnée, c'était terminé, tout ce qu'on pouvait faire, c'était être reconnaissant, répandre notre reconnaissance devant Dieu. Un instrument de musique peut aussi devenir, par moment, un instrument de supplication. On peut pleurer, un violon peut exprimer tellement de choses et je regrette que notre bien-aimée Rachel soit repartie aux États-Unis avec son violon. Mais c'est vrai qu'avec un violon, on peut exprimer autant la joie, le rire, que les gémissements, la douleur, la souffrance. Il y a tellement de choses qui passent par la musique. Et comme dit, un instrument à lui seul peut devenir une arme dans la prière. Vous en êtes conscient? Amen. Amen. Je peux exprimer par la musique l'amour, la passion, la joie, la jubilation, mais aussi la colère, la tristesse. Il y a tellement de variétés, de formes de musique différentes, et je crois que Laetitia ne dira pas le contraire, n'est-ce pas? En passant de la musique classique, en passant par le jazz et jusqu'au hard rock. Je ne sais pas, au niveau des gens de mon âge, vous avez déjà essayé d'écouter du hard rock? Vous avez essayé? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Moi, ça commence à provoquer, je sais pas, de la colère en moi. Ça m'agresse, ça me. Je pense que les jeunes n'ont pas les mêmes réactions que nous, on peut avoir, mais moi, ça me rend agressive, ça me rend méchante d'écouter ce genre de musique. Par contre, il m'est déjà arrivé d'écouter un morceau de musique classique et tout d'un coup d'être dans une mélancolie pas possible. Berk. C'est pas chouette non plus, hein, je vous dirais. Mais c'est vrai que dans la musique, on peut exprimer tellement de choses et la musique est une forme de prière. Dans ce que nous avons fait ce matin, il y a une autre forme de prière, c'est l'expression corporelle. On peut danser, sauter, exprimer sa joie, être exubérant, exalté. Et c'est vrai que des fois, dans des temps de tabernacle ou même dans des temps de culte, si quelqu'un venait du dehors, ils diraient, ils sont complètement fades à ceux-là. Mais quand on va dans une boîte de nuit, ça ne choque personne finalement. Hein, quand on voit les jeunes se déhancher, là, ça ne choque personne. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil devant notre Dieu? Et je pense qu'au milieu de nous, bon, on n'est pas toute l'Église, mais je pense que c'est vrai qu'il y a déjà énormément de liberté. Mais je crois que Dieu veut encore davantage de liberté. Si je dis à Dieu, ouais, me voilà devant toi. Tu peux me donner tout ce que ta main veut déverser ce matin. Et puis je suis là. Est-ce que vous croyez que je suis dans une position ou dans une attitude où Dieu va pouvoir déverser quelque chose? Par contre, si je suis là, et, Seigneur, vas-y, déverse ce que ta main veut bien me donner ce matin. Je suis comme un vase. Je m'ouvre et je m'ouvre à ce que lui veut me donner. Et peut-être que dans la louange et dans l'adoration dans laquelle je me tiens, maintenant, en levant mes bras vers Dieu, lui, il va faire couler, il va faire descendre une intercession. Et on a souvent expérimenté ce genre de choses dans les tabernacles. Souvenez-vous, on est dans un temps d'adoration intense. Et tout d'un coup, il y a une intercession qui vient. On est ouvert. On s'ouvre à ce que Dieu veut faire. Et c'est une prière devant l'Éternel. Je m'ouvre à ce que toi, tu veux faire. Seigneur, déverse, fais, dirige, conduis, vas-y. Je suis là pour recevoir ce que toi, tu veux faire. Je suis ce canal pour toi ce matin. Je désire être ce canal pour toi. Mais si je fais ça, qu'est-ce que j'exprime? Pas touche, surtout n'approche pas. Et puis souvent, je suis là, tiens, je te donne ça. Et j'ai mon poing, ma main bien fermée, et je tiens. Vous savez qu'en Afrique, quand on donne un cadeau, quand on fait un présent, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, je t'offre, je t'offre. Donc notre expression corporelle devient prière devant l'Éternel. David a dansé comme un fou devant l'Éternel. Et il y en a par moments au milieu de nous qui dansent comme des fous. Mais c'est une prière et je vous assure que si vous commencez à danser comme des fadas devant Dieu, ça libère l'atmosphère spirituelle autour de vous. Parce que l'ennemi ne supporte ni les chants, ni les danses, ni le rire. Le rire aussi est une arme. Le rire est une prière. Dieu se rit de ses ennemis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi, j'aime bien quand je découvre des versets comme ça dans la parole, je me dis, bon Seigneur, tu te ris de tes ennemis. J'aimerais bien entendre ton rire. À quoi ressemble le rire de Dieu? Et puis j'ai commencé à cogiter, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, waouh, ça doit être pire qu'un grondement de tonnerre. Quand toi, tu ris, Seigneur, mais tes ennemis volent en éclats, ils prennent la fuite. Rien que quand tu commences, tu n'es pas encore au bout de ton rire, déjà il n'y a plus personne autour de toi. Et le rire, c'est une arme, c'est une prière. Ne méprisez pas ces choses, même si ça ne vous est jamais arrivé. Le jour où ça vous arrive, ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas. Ce sont des choses que l'Éternel veut nous donner, que sa main veut nous donner. Si tu es saisi par le Saint-Esprit, eh ben ne freine pas ces choses, simplement rends-toi disponible. Il y a tellement de choses qu'on peut exprimer par notre attitude corporelle. Isabelle, ce matin, dans la danse, eh ben, elle a commencé à exprimer la soumission, et puis la reconnaissance, et puis la joie. Il y a tellement de choses. Notre corps, lui-même, est une arme quand on veut bien se laisser saisir par le Saint-Esprit. Amen. Dans Romains 6, 13, il est dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc nos membres, notre corps, nous pouvons les offrir à Dieu comme des instruments de justice. Dans Romains 12 au verset 1, et je pense que ce verset-là, mais tout le monde le connaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je ne vous dis pas des choses, des paroles en l'air, ce n'est pas moi qui ai inventé ces choses, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Mon corps peut devenir un instrument de prière et même une arme de guerre. Rappelez-vous dans les tabernacles, les jeunes, quand ils prennent les bâtons. Je veux dire, s'ils prennent un bâton en main et puis qu'ils restent là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais s'ils joignent le geste à ce qu'ils font, waouh, quelle puissance! Là aussi, par moments, on a l'impression que c'est un troupeau de buffles qui commence à courir et qui piétine et qui écrase. Et vous avez tous vu déjà dans les westerns, hein, les troupeaux de buffles, quand il y en a un qui se met en route, rien ne peut l'arrêter. Et je crois que tout ce qui se trouve sur leur passage est réduit en crêpes, rétamé. Il ne reste plus rien. Et bien de la même manière, quand on entre dans ces temps, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes que nous ne voyons peut-être pas avec nos yeux, mais que nous savons en esprit. Amen. Il y a une chose qui me paraît importante, c'est que tout ça, on ne peut pas le produire par nous-mêmes. Si on n'est pas soumis à Dieu, si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, tout ce qu'on pourra faire, que ce soit dans la louange, l'adoration ou même l'expression corporelle, mais toutes ces choses, ben, tu peux les faire dans le monde. Ça n'a aucun effet, ça ne bouge rien. Mais si tu le fais parce que tu es soumis à Dieu et parce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, waouh, quelle puissance! Amen. Et c'est vrai que tout vient d'en haut. Et tout est pour lui. Alors même, vous savez, des fois on vient le dimanche matin, on a eu une mauvaise semaine et puis on est là, mais qu'est-ce que je viens bien pouvoir te donner, Seigneur? Comment est-ce que je vais pouvoir te louer ce matin? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je suis tellement raplapla, je suis tellement vide. Mais pas de problème, t'es raplapla, t'es vide, le Saint-Esprit est là, demande-lui que l'esprit d'adoration soit déversé, l'esprit de louange, que la reconnaissance soit déversée dans ta vie. T'as rien à faire, t'as rien à produire par toi-même. Simplement, reçois et redonne. Parce que la louange et l'adoration lui sont dues. Dans Jacques 1,17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » 1 Chronique 29, verset 14 nous dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc pas de problème, si tu n'as rien à donner, reçois simplement et offre tout à nouveau. Il y a une autre forme de prière, c'est la prière de consécration. On va prendre dans Nombre 6 au verset 22. Non, ce n'est pas verset 22, c'est verset 1, excusez-moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de liqueur forte et patati et patata. » Et il y a toute une série de prescriptions qui sont données ensuite. Et je veux dire, on n'a pas besoin de toutes ces prescriptions, même si pour les Juifs, pour eux, c'est très important de suivre ces prescriptions. Mais je crois que par moment, il est bon de se consacrer à l'Éternel. Simplement par la parole ou encore par l'expression corporelle. Quelle est la meilleure façon d'exprimer corporellement « Seigneur, je me consacre à toi » ? C'est de me mettre à plat ventre, face contre terre. Et en me mettant à plat ventre, face contre terre, quelque part, je me rends vulnérable. Je ne vois plus rien, je ne peux plus bouger. Je suis là, simplement, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Et tu peux te soumettre à ce moment-là au Tout-Puissant, tu peux te soumettre au Bien-Aimé, tu peux te soumettre au Créateur, et ça va amener des choses différentes. Parce que ce sont différentes caractéristiques de notre Dieu. Mais si tu te soumets, tu peux être certaine ou certain que, eh bien, Dieu va venir, il va te couvrir et son onction va venir. C'est déjà arrivé aussi que dans des temps d'intercession, on était simplement arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire. On avait épuisé toutes les armes, on les avait toutes sorties les unes après les autres, et puis on sentait, ben, ça coince encore. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et simplement de te consacrer, de te soumettre pleinement, de t'allonger là, par terre, la puissance de Dieu, elle vient, et tu sens à l'instant même la délivrance, elle est là. Tu sais que ça y est, l'Éternel est venu et rien ne lui résiste. C'est tellement précieux, ce sont des choses, des fois on les fait simplement par réflexe ou parce qu'on s'y sent poussé par le Saint-Esprit, mais on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on fait. Alors moi je vous donne toutes ces armes pour que vous puissiez vous en servir, pas pour que vous les mettiez bien en ordre dans votre ceinture et puis que vous ne vous en serviez pas, mais que vous appreniez, suivant les circonstances, suivant les temps, suivant ce que Dieu a pour vous, eh bien, vous puissiez effectivement les ressortir et vous en servir. Bien sûr, si dans un temps d'intercession, et ça nous arrive aussi, tout d'un coup on est fatigué, on n'en peut plus, mais on n'a pas tout épuisé. Et c'est au contraire par paresse qu'on s'arrête. Voilà. Je suis désolée, mais c'est l'ennemi qui aura gagné la bataille. C'est pas vous, c'est l'ennemi qui aura gagné la bataille. Ne vous arrêtez jamais parce que vous êtes fatigué, si vous n'avez pas épuisé toutes les possibilités que Dieu a mis à votre disposition. Même si c'est dur. Et je sais combien parfois le combat peut être hard, peut être dur. Et c'est vrai que dans une armée, quand on regarde dans le physique, dans le naturel, moi j'aime toujours regarder dans le naturel parce que ce sont des leçons de choses pour nous, dans le spirituel, qu'on peut prendre après et les appliquer dans le spirituel. Si un soldat est fatigué, l'autre va l'aider à porter son barda, un autre va lui prendre son fusil, deux autres vont l'empoigner sous les bras et vont l'aider à avancer, mais ils vont pas le laisser en route. De la même manière, si je suis fatiguée, je ne suis pas seule. Dieu a mis à mes côtés des frères et des sœurs qui vont me pousser en avant. Mais je ne veux pas m'arrêter par paresse. Je veux continuer de marcher, continuer d'aller de l'avant jusqu'à ce que, et à ce moment-là, mon corps même qui souffre, qui est là, devient cette intercession dont Dieu a besoin pour que la délivrance approche et s'accomplisse. Amen. Il y a une autre forme de prière qu'on connaît tous et qu'on a certainement tous utilisée, peut-être même jusqu'à l'épuisement. Et je suis passée par là et je crois que ça fait partie aussi de ce que Dieu veut pour nous, c'est les lamentations, les gémissements, les demandes, les prières. Seigneur, je vais pas bien. Seigneur, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Et puis, on vient, vous savez, on déroule notre liste de commissions et puis, on la descend et on est là. Et je veux dire, ça fait plaisir à Dieu. Quand on prend certains psaumes, on voit combien David demandait à l'Éternel quand il était dans le besoin. Il criait à l'Éternel quand il était dans le besoin. Et il y a un verset qui dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est pas manquer de foi, c'est pas un péché. Simplement, tu as besoin de déverser ton cœur, de déverser ce qu'il y a là et qui t'entrave, qui te fait mal, qui te fait de la peine, qui te fait souffrir. Tu as besoin de déverser ces choses. Mais je crois que ça, c'est plus une prière individuelle qu'une prière en groupe. Ou alors, je sais que c'est vrai qu'en cellule, on a l'habitude de faire un tour de table et de demander, voilà, quels sont tes besoins, et de prier les uns pour les autres. Mais je veux dire, quand on se rassemble en tant qu'Église pour prier par rapport à des choses particulières, comme l'intercession pour la nation, pour les élections, ou ci ou ça, eh ben, c'est pas le moment de venir et de vider nos poubelles. Ça, il faut qu'on le fasse avant de venir, ou qu'on se chope quelqu'un par le bras avant la réunion et qu'on lui dise, écoute, viens, prie pour moi, voilà, il y a ça, ça, ça qui ne va pas, parce qu'autrement, pendant toute la réunion, tu vas être tellement focalisé sur tes propres problèmes, sur tes propres besoins, que tu ne seras pas disponible pour ce que Dieu t'a appelé à accomplir ce jour-là. Et donc, tu as besoin d'être libéré de ça. Mais si tu déverses ton cœur, si tu déverses ta poubelle, crois aussi que Dieu va agir, qu'il va entendre ton cri et que la délivrance va venir. Et souvent, nous, on est là, on déverse nos poubelles. Alors, je ne dis pas vous, mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Déverse ma poubelle et puis je me dis, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Hein. Et puis demain, je me retrouverai encore dans la panade, j'aurai encore les pieds dans la mélasse et puis... Non. Crois simplement, si tu déverses ton cœur, Dieu va te répondre, même si ce n'est pas dans la seconde qui suit. Et une fois que tu as déversé ton cœur, qu'on a prié pour toi, reste dans une attitude de foi. Mais ça aussi, c'est une prière, c'est une supplication devant l'Éternel, c'est un cri. Et l'Éternel entend, c'est ce qui est dit dans un des psaumes, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il lui répond. Amen. Alors ne restons pas là à gémir, à geindre, mais ayons l'assurance et la foi. Dieu est tout puissant. C'est mon papa. Il va agir. Quand un enfant vient vers vous, il s'est fait mal ou il s'est disputé ou bagarré avec un copain, il sait que son papa est là, qu'il va l'écouter et qu'il va prendre soin. De la même manière, notre Père céleste va prendre soin de nos besoins. Amen. Alors j'en viens à une des armes qui est presque ma préférée, bien que je les aime toutes. Et puis il y en a plein dont je ne vous parlerai pas ce matin, mais je vais rester sur celle-là. Et on y est déjà passé ce matin dans la louange. C'est la reconnaissance. C'est une des prières qui réjouit le cœur du Père. C'est de venir à lui dans la reconnaissance. Je suppose que ça nous est arrivé à tous, du moins je l'espère, de commencer notre journée dans la reconnaissance. Alors réfléchissez un peu. Et analysez la journée qui a été commencée dans la reconnaissance, qu'est-ce qu'elle vous a amené? Par contre, la journée, quand on dit « je me suis encore levé du pied gauche, je suis mal vissé, je suis ronchon », que va être ma journée? Quelles en sont les conséquences? On est tous passés par là aussi, hein, j'espère que je ne suis pas la seule. Hein. Mais que va produire la reconnaissance? La reconnaissance, ça devrait devenir un style de vie. Vous savez que la reconnaissance éloigne l'amertume, éloigne l'oppression. Alors commencez votre journée dans la reconnaissance. Je crois qu'il y a tellement à découvrir dans la reconnaissance. La première des choses qu'on apprend à un enfant, c'est à dire merci. Même quand il ne sait pas encore parler, hein, on lui dit « fais merci ». Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il ne sort pas du ventre de sa maman en disant « Ouais, merci maman, tu m'as porté pendant 9 mois. Merci papa, parce que tu es mon géniteur. Merci. » Il n'est pas là à dire merci pour tout ce qui l'entoure. Merci pour la vie. Non. Il faut lui apprendre à dire merci. Il faut lui apprendre à être reconnaissant. Et quelle joie une fois qu'il sait courir et qu'il vient se jeter dans vos jupes ou dans vos pantalons et « Waouh, merci maman, merci papa, c'est tellement génial. Merci pour le cadeau que tu viens de me faire, merci pour le bout de chocolat. » Moi je sais que j'ai un petit-fils, Ruben, alors lui la reconnaissance, il l'exprime. Oh, mais quelle joie, quelle joie. « Mamie, ton repas, il était vraiment super. » Tu es la meilleure cuisinière du monde. Et puis bien vite, il rajoute, mais maman aussi, c'est la meilleure cuisinière du monde. Mais waouh, quel cadeau. Combien ça fait du bien à mon cœur. Combien je suis réjouie. Et puis alors, par reconnaissance, il a déjà dit merci, mais il va encore me faire un dessin. J'en ai un plein tiroir, je les conserve, je les garde. Mais waouh, c'est génial, c'est extraordinaire. Et quand Dieu nous a donné quelque chose, on est là, on prend et puis on s'en va. Souvent, on manque de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas inné, même chez nous les adultes, de dire merci, d'être reconnaissant. Et qu'il faut apprendre à dire merci. Merci Seigneur. Merci de tout mon cœur. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer par reconnaissance pour ce que Dieu avait fait pour moi. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens du jour où, à Pierre Vivante, il y a ce message qui avait été donné, comme quoi on était cohéritiers avec Christ, qu'on avait les mêmes droits que lui. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, en voiture, mais je sautais dans ma voiture. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est génial! J'ai les mêmes droits que Jésus, waouh, c'est fantastique! C'était, pour moi, c'était extraordinaire! J'étais adoptée, c'était une adoption plénière, j'avais les mêmes droits que le fils légitime. C'était trop super, je ne pouvais pas me contenir tellement la joie qui était là, qui était au fond de mes entrailles, elle avait besoin de sortir, d'exploser, de s'exprimer. C'était trop génial. J'ai un papa trop super, j'ai les mêmes droits. J'ai mené une telle vie avant de le rencontrer. J'étais dans le péché. Et maintenant, j'ai les mêmes droits que Jésus qui lui n'a jamais péché. Au contraire, qui s'est livré pour moi. Waouh! Vous avez déjà réfléchi à ça? Alors, si vous n'avez aucun sujet de reconnaissance quand vous vous levez le matin, il y a au moins celui-là. Au minimum. Et pourtant, des sujets de reconnaissance, on en a. Merci Seigneur pour ma femme. Merci Seigneur pour mon mari, merci pour mes enfants, pour mon travail, pour mon chef, même s'il est grognon. Même si hier, il m'a encore fait des crasses. Mais si tu commences à remercier Dieu pour ton chef, je t'assure que Dieu, lui, il va s'en occuper. Et qu'il va le changer, qu'il va le transformer. Et si tu arrives le matin en ayant remercié pour ton chef au boulot qui te met des bâtons dans les roues comme il peut, déjà, tu vas être disposé différemment à son égard et il va être lui-même tout surpris de voir ta mine réjouie, ton sourire et il va pas pouvoir faire autrement que de changer à ton égard. C'est obligé. Les maris, est-ce que vous avez déjà remercié vos femmes parce que la maison est bien tenue? Parce que votre chemise, elle est super bien repassée? Ou les femmes, est-ce que vous avez déjà remercié votre mari parce qu'il s'occupe tellement bien de la voiture? Ou parce qu'il a repeint la chambre des enfants? Ça vous est déjà arrivé? Il y en a qui rient là. Je vous prends un peu au dépourvu. Alors à la maison, hein, vous arrangerez tout ça entre vous. Mais réfléchissez à ce que ça produit en vous quand quelqu'un vient vous dire merci. Votre cœur est tellement réjoui de la reconnaissance de l'autre. De la même manière, le cœur du Père est tellement réjoui. Et la reconnaissance, c'est une prière. C'est une prière. Vous le croyez ? Amen. Dans Éphésiens 5, au verset 20, il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses et en tout temps à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des cadeaux et puis plof, c'était un peu à côté de la plaque. Ça aussi, je suppose que je ne suis pas la seule. Il y en a peut-être d'autres dans la salle à qui c'est arrivé. Et puis alors, la personne, elle vous dit merci d'un ton poli, mais on sent bien que on a tapé complètement à côté. Et puis là, tu es là en train de réfléchir et de te dire, mais la prochaine fois, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Et puis tu es déçu et tu as donné de tout ton cœur. Tu as fait des efforts pour trouver quelque chose et puis finalement, flop, c'était à côté. Ou alors c'est un cadeau, tu sais que ce que c'est, ce que la personne finalement elle désirait. Et puis elle te dit un merci bien poli. Et puis bon, elle s'en va avec son cadeau. Et puis toi, tu restes là un peu frustré, un peu déçu parce que tu t'attendais à une démonstration peut-être un peu plus expansive. Et puis alors, c'est peut-être arrivé aussi que tu aies fait un cadeau complètement kitsch, mais tu savais que ça allait parler à la personne. Et c'est le type de cadeau que j'appellerais le cadeau prophétique. C'est complètement kitsch, c'est complètement nul, ça t'a coûté trois fois rien, mais tu sais que tu vas toucher le cœur de la personne. Et elle va venir, waouh, ça c'est trop génial. Ça, je vais le garder, c'est trop excellent. Moi, je sais qu'il y a des petites bricoles comme ça que certaines personnes m'ont offertes et qui ont une signification pour moi. Elles n'ont aucune valeur marchande, c'est trois fois rien, mais waouh, c'était le cadeau qui me parlait, qui était là. Et quand tu t'exprimes comme ça et waouh, c'est génial, et bien la personne, vous savez ce qu'elle fait ? Elle se réjouit déjà parce qu'elle sait que la prochaine fois qu'elle va vous offrir quelque chose, ça sera tellement bien reçu qu'elle se fait un plaisir et qu'elle réfléchit déjà maintenant à ce qu'elle va pouvoir vous offrir la prochaine fois. Mais Dieu, c'est pareil avec nous. Mais ouais, merci Seigneur. Hein. Merci pour ce que tu m'as donné aujourd'hui, mais je me demande quelle est la tuile qui va me tomber dessus demain. Et des fois, on est comme ça. Merci parce que tu m'as délivré de cette épreuve, mais ouais, quelle est la prochaine ? Est-ce que vous croyez qu'on réjouit le cœur de Dieu comme ça? Alors que si on lui dit, Seigneur, c'est génial, une fois de plus, tu m'as sorti de ce bourbier. Une fois de plus, ta main puissante, elle est venue sur moi et elle m'a retiré des grandes eaux. Et Dieu, là, il se demande déjà, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour lui la prochaine fois? Waouh, je me réjouis. Je me réjouis parce que je sais que je vais pouvoir lui faire plaisir. Amen. Je vous regarde et puis vous avez l'air tout surpris avec vos grands yeux. Mais c'est vrai que la reconnaissance est une forme de prière. Je peux dire merci à Dieu en toute occasion. Pour le temps qu'il fait, même si ce n'est pas les chaleurs qu'on attendait cet été pour certains, moi ça me convient, d'autres non. Mais je veux dire, quelle grâce qu'il pleuve. Regardez un peu le Sahara, la sécheresse, ou les endroits où il n'a pas plu depuis des années. Combien les gens aimeraient que nos petits nuages aillent déverser un peu chez eux. Je crois que même pour ça, on peut être reconnaissant. Pour les oiseaux, pour les fleurs, pour tout ce que nos yeux peuvent voir, pour tout ce que nos oreilles peuvent entendre de beau. Pas le hard rock, hein. Mais pour tout le reste. Ouais, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné un travail. Merci parce que je peux me lever tous les matins et aller à mon travail. Merci parce que tu ne me laisses manquer de rien. Merci parce que j'ai de quoi me vêtir. Merci parce que je ne meurs pas de faim. J'ai assez dans mon assiette, j'en ai même de trop. on a tellement de sujets de reconnaissance devant l'Éternel et souvent nous on est là à ronchonner, à râler. Regardez un peu, examinez un peu les personnes âgées. Les gens qui ont été ronchons toute leur vie, qui ont râlé toute leur vie, ce sont des gens aigris. Ce sont des gens qui deviennent méchants. Par contre, une personne qui a passé sa vie dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, c'est quelqu'un qui va être heureux, dont la compagnie va être agréable. Et c'est vrai, ça se voit. Allez en maison de retraite, regardez un peu, faites le tri. Ou même dans nos familles, des fois, on voit ces choses-là. Si on passe notre vie dans la reconnaissance, ben, je crois qu'on sera des personnes âgées très agréables et que nos enfants, nos petits-enfants ou même les enfants des voisins n'hésiteront pas à venir. Parce qu'on sera, on aura développé un caractère heureux. Je vous l'ai dit, la reconnaissance fait fuir l'amertume. La reconnaissance fait fuir l'amertume. Si vous ne retenez qu'une chose de cette matinée, mais retenez celle-là. La reconnaissance fait fuir l'amertume. Un cœur reconnaissant ne peut pas être dans l'amertume. Alors si tu es dans l'amertume, pose-toi peut-être la question. Et c'est vrai que pour certains, peut-être, cette forme de prière va être à développer. J'ai encore vécu dernièrement quelqu'un qui avait vécu des bénédictions, c'était super. Sur le moment, la personne a pu remercier et puis quelques semaines après, boum, une épreuve. Et puis là, ça vient. Ouais, toujours moi. Pourquoi toujours moi? Et puis gna gna gna, et puis gna gna gna, et puis Dieu il bénit toujours les autres et jamais moi. Et elle se souvenait plus de ce que Dieu venait de faire pour elle. Alors que si tu commences à remercier au sein de l'épreuve, non pas pour l'épreuve, et là, j'insiste bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vais pas remercier pour l'épreuve, parce que l'épreuve ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui a façonné, qui a fabriqué tout ça et puis qui te l'envoie. Mais si tu commences à remercier au sein de l'épreuve, parce que tu sais que ton Dieu, c'est le Tout-Puissant, que son bras n'est pas trop court pour te venir en aide, si tu commences à remercier pour ça, eh bien, crois que ta délivrance, elle est proche, qu'elle est là, devant ta porte. Par contre, si tu commences à ronchonner, à râler, et puis tu te dis, c'est pas contre Dieu, c'est contre les circonstances. Mais quand même, réfléchis un peu. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu pour Dieu de ta révolte? Alors que la reconnaissance devienne notre style de vie. Elle éloigne l'amertume. Elle éloigne l'oppression. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? La reconnaissance éloigne l'amertume et l'oppression? Amen. La reconnaissance éloigne l'amertume et l'oppression. Retenez ça, serrez-le dans vos cœurs. Et le jour où vous avez une épreuve, entrez dans la reconnaissance, parce que vous savez que votre Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, c'est le seul qui soit capable de vous délivrer de votre situation. Et c'est pas en vous secouant, en essayant par vos propres forces d'arriver, que vous allez y arriver. Non. Mais c'est la reconnaissance qui va faire bouger le bras de Dieu. Amen. Il y a encore plein d'autres façons de prier, d'intercéder. Mais ça sera pour une autre fois. Je vais m'arrêter là ce matin. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été patient. Et je veux simplement, une fois de plus, dire merci à mon Père céleste, à mon Père éternel. Merci pour les armes que tu nous as données. Seigneur, merci parce que tu nous apprends à nous en servir. Merci parce qu'avec ces armes, Seigneur, nous allons pouvoir, avec toi, remporter la victoire. Tu désires nous faire entrer dans la pleine victoire de la croix. Et pour ça, tu nous as donné des armes. Des armes, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession. Et nous voulons les connaître toutes afin de pouvoir nous en servir. afin de nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Quand il est besoin de prendre un marteau, nous puissions prendre le marteau. Quand il est besoin de prendre une pelle, nous puissions prendre la pelle. Mais Seigneur, nous voulons nous servir de toutes les armes que tu as mises à notre disposition. Et nous te remercions pour la plénitude de ce que toi, tu as voulu pour nous, de ce que ta main nous donne. Amen.